Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Ravi de vous retrouver, c'est votre émission chaque jour de compréhension, d'explication de l'actualité et de débat. Dans une demi-heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous nous projetterons à demain lorsque s'ouvrira à Kinshasa le procès en appel de Vital Kamerhe. Après sa condamnation à 20 ans de prison en première instance, qu'attendez-vous de ce nouveau procès contre le chef de cabinet du président de RDC? Estimez-vous que la justice congolaise et la lutte contre les malversations progressent ou au contraire qu'il s'agit d'une procédure bâclée, procédure politique? Nous attendons vos commentaires au 33 9 693 693 70, vos messages sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Et bien sûr, vous pouvez rejoindre la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité avec des dizaines de commentaires et le débat fait rage. Mais d'abord, comme chaque jour, la rédaction de RFI se mobilise pour répondre à vos questions d'actualité. On commence avec Armand. Bonjour.
Oui, bonjour.
Armand, vous êtes en ligne d'Abidjan et vous souhaitez des précisions sur l'accord sur le plan de relance européen. Nous vous écoutons.
Oui, effectivement, au bout de 4 jours de négociations, les chefs d'État européens réunis à Bruxelles ont enfin trouvé un accord sur le plan de relance post-coronavirus. Ma question, c'est de savoir pourquoi ça a été aussi difficile d'obtenir un accord et quels sont les points qui bloquaient les négociations.
Eh bien, pour vous apporter ces précisions, Pauline Glaise me rejoint en studio. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Du service économie de RFI. Alors Pauline, c'est vrai, des jours et des nuits de tractations, des rebondissements, des portes qui claquent, des mines fatiguées et finalement un accord. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce menu des discussions était si lourd à ingérer pour les 27?
Mais alors déjà, il faut dire que cet accord, il est basé sur un endettement commun. Avant d'arriver à Bruxelles, l'idée avait globalement été acceptée, mais c'était un sujet tabou il y a encore quelques mois. Et si l'Allemagne était finalement convaincue, a même largement promu ce plan, d'autres pays ne se sont pas engagés dans cette voie de gaieté de cœur et souhaitaient donc des garanties. Alors pour bien comprendre, revenons un instant sur l'architecture de ce plan. Il comporte une partie de prêts. Les États membres pourront emprunter à l'Union européenne qui elle-même bénéficie de taux avantageux. Puis il y a une partie subvention. Dans ce cas, une enveloppe est en quelque sorte donnée aux États. Alors évidemment, l'emprunt de la Commission européenne, il faudra bien le rembourser, mais la création de nouvelles ressources propres pour limiter les contributions des États est à l'étude. Et puis ensuite, la répartition de ces subventions ne correspond pas forcément à la contribution des États au budget européen. Cela veut donc dire que des pays vont contribuer à la relance d'autres États. C'est un principe de solidarité, de transfert de richesses. Alors pour schématiser le blocage, Armand, il y avait à la table des négociations d'un côté les pays favorables à un plan comportant un grand volet de subventions, notamment la France, l'Allemagne ou l'Italie, et de l'autre des pays dits frugaux, dont les Pays-Bas ou l'Autriche, qui préféraient que le plan d'aide se fasse sur la base de prêts, chacun remboursant donc ce qu'il avait emprunté. Les 27 ont donc dû trouver un équilibre et se mettre d'accord sur les montants des différents volets de l'aide. Ensuite, il a fallu régler la question de la gouvernance, de la manière de valider et surveiller le déblocage des fonds. Les Pays-Bas souhaitaient avoir un droit de veto. La France et l'Italie y étaient opposées. Puis enfin, il y a d'autres sujets qui fâchent, mais qui ne posent pas forcément les mêmes pays. L'idée de lier le budget européen au respect de l'état de droit, idée qui a braqué la Hongrie et la Pologne, qui font l'objet d'une procédure.
Armand, vous avez une question justement sur ces pays dits frugaux, voire radins.
Oui. Concrètement, qu'est-ce que ces pays frugaux qui s'opposaient à cet accord ont finalement obtenu pour changer d'avis?
Eh bien, alors, ils ont obtenu un rééquilibrage, en fait, de ces deux volets. La base de négociation prévoyait 250 milliards d'euros de prêts et 500 milliards d'euros de subventions budgétaires. Au final, l'enveloppe globale est toujours de 750 milliards, mais seulement 390 sont consacrés aux subventions et 360 aux prêts. Les Pays-Bas n'ont pas obtenu le droit de veto comme ils le demandaient, mais un système dit de frein d'urgence. Cela permet en fait à un État qui estime que les objectifs des programmes de réforme ne sont pas atteints de demander que le dossier de notre État soit étudié lors d'un sommet européen. Et puis surtout, les pays frugaux ont obtenu une augmentation de leur rabais. Alors ce rabais, c'est ce qui permet à certains pays de verser moins d'argent dans le budget de l'Union européenne. En bénéficient l'Allemagne et les quatre frugaux. embargo. Avec le Brexit, certains, dont la France, espéraient une suppression progressive de la ristourne. Pour obtenir un compromis, les montants proposés en amont du sommet ont au contraire été augmentés pour les frugaux.
Armand, vous avez d'autres questions pour Pauline Guez?
Oui, juste une dernière question. Alors, comment fonctionne la procédure de vote sur cet accord? Et si les pays frugaux avaient refusé, y aurait-il eu un moyen de passer en force pour les vendeurs autres pays?
Eh bien, en fait, non, l'unanimité était nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été aussi long. Si chacun des 27 pays membres n'était pas convaincu, eh bien, il n'y avait pas d'accord à Bruxelles. D'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a appelé à abandonner la règle de l'unanimité au profit de la majorité qualifiée pour les décisions sur la fiscalité. Mais avant le sommet, l'Élysée estimait que, le cas échéant, la question de coopérer à quelques États pourrait se poser, mais considérait que cela aurait été un ultime recours et que cela n'était pas souhaitable, car en fait, cet accord conclu à Bruxelles, c'est plus qu'une aide financière, c'est un pas vers plus de solidarité et d'intégration économique européenne.
Armand, est-ce que vous avez bien suivi les explications de Pauline Guez?
Absolument, absolument, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Armand, de votre fidélité à l'émission, et merci à Pauline Guez qui revient quand elle veut. On va à Brazzaville maintenant. Bonjour Molly.
Bonjour François Mazet.
Vous souhaitez des précisions sur le parcours et les idées de l'imam malien Mahmoud Diko. Allez-y.
Oui, oui, parce que depuis 2 mois, le Mali a vu naître le mouvement 5 juin, avec diverses revendications à sa tête, le charismatique imam Diko, dont la personnalité interroge toujours. Alors, j'ai une série de questions à poser. La première, c'est celle de savoir comment s'est fait connaître l'imam Diko et quels sont ses positions sur des enjeux de société.
Oui, l'imam Diko que vont rencontrer aujourd'hui, hein, d'ailleurs, les chefs d'État africains qui se rendent à Bamako dans le cadre de leur discussion avec les protagonistes de la crise malienne. L'imam Diko qui est devenu une autorité morale, hein, pour la coalition d'opposition. On va en parler avec Coralie Pierret qui est en ligne de Bamako. Coralie, merci à vous de répondre aux questions de Molly. C'est vrai qu'en quelques semaines, hein, Mahmoud Diko est devenu la figure emblématique de la contestation. Mais il n'était pas pour autant un inconnu, hein, sur la scène politique malienne.
Non, en effet, hein, il pèse dans la vie politique malienne depuis maintenant plusieurs années. Et cette contestation, vous en parliez, hein, la contestation qu'il mène en ce moment est une nouvelle preuve, s'il en fallait une, de sa popularité. En fait, ses débuts marquants sur la vie, sur la scène politique malienne remontent à 2009, lorsque l'imam Diko prend la tête de la contestation contre le nouveau code de la famille. Ce nouveau code est présenté comme progressiste par les députés, avec des avancées, notamment en matière de droits des femmes. Mais ce code n'est pas du goût de l'imam qui préside à l'époque le Haut Conseil islamique, une organisation au Mali qui fait l'interface entre les religieux et les politiques. Et cette première bataille, l'imam Diko la remporte. En août 2009, il rassemble près de 50 000 personnes au stade du 26 mars de Bamako et le texte est finalement modifié.
Oui, et d'ailleurs Coralie, en fin d'année 2018, l'imam a mené une autre bataille sociétale.
Oui, cette fois-ci contre un manuel scolaire qui, selon les religieux, faisait la promotion de l'homosexualité. Là encore, c'est une victoire pour l'imam Diko, car l'élaboration de ce manuel sur l'éducation sexuelle est là aussi abandonnée. Alors, il faut préciser que l'imam s'engage régulièrement, en fait, dans des débats de société. C'est un ancien professeur d'arabe, formé notamment en Arabie Saoudite, imam de tendance wahhabite, même s'il semble refuser cette étiquette. Une chose est sûre, selon des chercheurs et des analystes, hein, le wahhabisme qu'il pratique est ancré dans les traditions locales maliennes.
Oui, c'est une précision de poids qui appelle à une autre question de la part de Molly. Nous vous écoutons, Molly.
Oui, oui, j'ai une seconde question. J'en ai même deux, mais je vais les cumuler. Alors, que compte faire l'imam Diko de l'énorme influence politique qu'il a en ce moment? Et pourrait-il se présenter à la présidentielle, si possible?
Coralie Pierret, l'imam Diko, il a des ambitions?
Alors, il l'a souvent répété, hein, il a souvent répété ne pas vouloir faire de politique. Je dirige la prière depuis 40 ans, je ne sais faire que ça, disait-il devant une foule de partisans à la manifestation le 19 juin. Usera-t-il de sa popularité pour se présenter à l'élection présidentielle en 2023? Son entourage affirme que non, que ce n'est pas envisagé par l'imam.
Et son mouvement, Coralie, la CEMAS, c'est une association hybride qui mêle le politique et le religieux.
Oui, tout à fait. La CEMAS, c'est le mouvement des amis de l'imam Nico. Lui, il est le parrain de cette association dirigée par un proche, Issac Aoudim, qui est aussi son gendre. Et d'ailleurs, ce mouvement est l'une des trois organisations qui composent le M5 aujourd'hui, le mouvement de contestation, qui depuis début juin multiplie les coups de force. La CEMAS a donc été créée récemment, et vous le disiez, en fait, c'est à la fois une sorte de parti politique, un mélange de partis politiques, d'organisations religieuses et d'organisations de la société civile. Elle a été créée en fait après que Mahmoud Diko ait quitté la présidence du Haut Conseil islamique du Mali en 2019. Ce poste lui avait permis d'accroître son aura et sa popularité, lui avait permis aussi de mener quelques combats sociétaux, on en a parlé, mais aussi des combats plus politiques. Par exemple, en avril 2019, il appelle à une manifestation officiellement contre les massacres dans le centre du Mali. Et grâce à une large mobilisation, il obtient la démission du Premier ministre de l'époque, Soumaïlou Boubaï Maïga.
Donc Coralie, pour bien répondre à Molly et pour conclure, on peut dire que son ambition, c'est de se placer en faiseur de roi finalement.
Alors, pour l'instant, difficile de le dire, mais enfin, une chose est sûre, c'est qu'il est devenu totalement incontournable. Hein. C'est chez lui, à Badalabougou, un quartier de Bamako, que tout se joue en ce moment. Autour de sa maison, entouré par des partisans qui, selon leurs propres mots, sont prêts à mourir pour protéger Diko, à l'extérieur de sa maison, mais aussi à l'intérieur, car il reçoit depuis le début de la crise toute la classe politique, des opposants jusqu'au Premier ministre et jusqu'au président Iveka. Hein, c'est d'ailleurs après un rendez-vous avec des diplomates, notamment de l'Union européenne, lundi, que l'imam, via son mouvement, la CEMAS, a décrété une trêve pour faire avancer les négociations jusqu'à la fin de la fête de Tabaski. Et depuis, ses troupes l'ont écouté et le calme est revenu dans les rues.
Merci Coralie Pierret d'avoir été en direct de Bamako pour répondre aux questions de Molly, auditeur de Brazzaville, où il est 9h22, même heure à Libreville, au Gabon, où l'on rejoint Kossi. Bonjour, bienvenue. Kossi, est-ce que vous êtes en ligne?
Très bien, bonjour François Mazet, à toute l'équipe de RFI.
Vous avez des questions sur Twitter ce matin?
Tout à fait. Alors, plusieurs comptes Twitter certifiés comme celui de Barack Obama ont été piratés. Les hackers ont posté de faux tweets pour récolter de l'argent. Twitter a présenté ses excuses et a expliqué qu'ils avaient réussi à manipuler certains employés pour accéder à ces comptes. Ma première question. Que veut-il dire Twitter en parlant de manipulation des employés? L'avait-il de complice au sein de l'entreprise?
On va le demander à Marie Normand du service international qui est en studio. Bonjour Marie.
Bonjour François et bonjour Kossi.
Alors forcément la question des complicités, tout le monde se la pose. Comment les pirates ont procédé? Comment parle-t-on de manipulation des employés?
Et oui, et puis surtout ça veut dire quoi manipuler? François, est-ce que ces employés étaient complices ou est-ce qu'ils ont donné accès contre leur gré à la plateforme qui permettait de contrôler les comptes des célébrités? Et sur cette question, eh bien Twitter reste assez vague dans ses communiqués. Le réseau social laisse entendre que ses employés se sont plutôt fait berner. L'entreprise promet d'ailleurs de mieux former son personnel à l'avenir aux tactiques d'ingénierie sociale.
Alors Marie, qu'est-ce que ça veut dire l'ingénierie sociale?
Alors c'est exploiter des failles humaines plutôt que des failles d'un programme informatique. Concrètement, les hackers instaurent une relation de confiance avec leur proie pour lui soutirer des informations dont ils ne se doutent pas qu'elles pourront servir ensuite à un piratage. Par exemple, ils se font passer pour un responsable et poussent l'employé à demander un accès au réseau en prétextant un problème grave qui doit être réglé très vite. Ça peut aussi être simplement de l'espionnage, fréquenter par exemple le restaurant d'une société et voir les employés pianoter leur mot de passe sur leur portable ou sur leur ordinateur. Dans le cas de Twitter, Kossi, le hacker aurait simplement réussi, selon le New York Times en tout cas, à s'introduire sur Slack, qui est une plateforme de communication, une sorte de messagerie interne à Twitter, où il aurait vu passer les mots de passe qui donnent accès au tableau de bord de Twitter. Des enquêteurs indépendants privilégient cette version et Twitter, là encore, ne confirme pas.
Donc pas vraiment de complicité, Marie.
Alors, il faut rester prudent, hein, parce que plusieurs médias spécialisés, comme le service technologie du média américain Vice, avancent une autre option. Ils disent avoir été en contact avec deux hackers et ces derniers expliquent qu'ils ont eu la complicité d'employés de Twitter et que même l'un d'entre eux a été payé. Combien on l'ignore? accord. Et là encore, Twitter ne confirme pas. Ce qu'on sait, a priori, c'est que l'attaque ne vient pas d'un pays ou d'un réseau sophistiqué. Hein. Il s'agirait simplement d'une poignée de jeunes d'une vingtaine d'années, dont l'un d'ailleurs, apprend-on, vit encore chez sa mère.
Alors forcément, en pleine période préélectorale, ce piratage pose question, qu'aussi ça ne vous a pas échappé.
Oui, tout à fait. À quelques mois de la présidentielle, ce piratage a-t-il relancé le débat sur la protection des données?
Alors oui, bien sûr, hein, puisque les messages privés et même les numéros de téléphone d'une trentaine de comptes ont pu être consultés, selon Twitter, qui ne précise pas lesquels. La société évoque celui d'un élu des Pays-Bas, mais pas d'autre homme politique a priori. Pour rappel, hein, l'un des comptes piratés était celui du candidat démocrate Joe Biden. Donc beaucoup d'élus du Congrès américain estiment que Twitter n'en fait pas assez pour sécuriser les données sur la plateforme. Débat sur la protection des données, et puis plus largement sur l'impact des réseaux sociaux sur le monde réel, notamment de Twitter. Plateforme très utilisée, on le sait, par les administrations, par les hommes politiques, notamment par le président Trump. Alors cette fois, il semble que le motif était simplement crapuleux, c'était l'appât du gain, mais imaginez que ces comptes aient rapporté une fausse information, l'impact que cela pourrait avoir, et c'est d'ailleurs déjà arrivé en 2013 avec des hackers pro-régime de Damas qui avaient piraté le compte de l'agence de presse AP en expliquant que le président Obama avait été blessé dans une explosion, et bien ça avait immédiatement fait baisser les cours de la bourse.
Merci Marie-Normand d'avoir pris le temps de répondre à Cossy qui nous écoute à Libreville. Bonjour Marc.
Oui, bonjour François et coucou à Juan Gomez, sûrement qui nous écoute.
J'espère que pendant ses vacances, il prend le temps, bien sûr, de nous écouter. Marc, vous êtes à Sokodé, au Togo. On parle de football avec vous. Vous avez été interpellé par la suspension du Ballon d'Or pour cette année. Allez-y.
Oui. François, pour la première fois depuis sa création, le Ballon d'Or ne sera pas attribué en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. C'est une grande surprise pour moi, Monsieur Mazé. Comment expliquer cette décision alors qu'une grande partie de la saison avait déjà été jouée et que la Champions League va se jouer en août?
Bon, on va le demander à Frédéric Suto. Bonjour Frédéric.
Bonjour François et bonjour à Marc.
Alors comment France Football, l'hebdomadaire qui gère le Ballon d'Or et le prix individuel, hein, le plus prestigieux en football, justifie-t-il cette décision?
Bien, Pascal Ferré, le directeur de la rédaction, hein, a expliqué en début de semaine que cette décision, elle avait été très compliquée à prendre et que depuis le début en fait de la pandémie Covid-19, eh bien à la rédaction de France Football, on a bien vu quand tous les championnats étaient suspendus, la Ligue des Champions s'est arrêtée, l'Euro de foot également reporté d'un an, la Copa América qui devait se dérouler en Argentine et à Colombie reporté également à 2021. Plus les semaines ont passé, nous dit Pascal Ferré, plus il est devenu évident qu'il était difficile et bien de trouver une crédibilité à ce Ballon d'Or 2020. Il résume la situation en ces termes. Cela ne peut pas être une bonne solution, mais c'est sans doute la moins mauvaise. Pas de Ballon d'Or de décerner donc à la fin de l'année. Hein. C'est vrai que ce rendez-vous rythme la saison de foot tous les ans. Dans les 2-3 mois qui précèdent, il y a d'abord les 50 nominés, puis les 3 finalistes, et puis bon, la fin du suspense. Alors bon, le suspense, François, depuis une douzaine d'années, hein, depuis 2008.
Oui, il y a un duopole sur le Ballon d'Or.
Avec Léo Messi, 6 Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo, 5 Ballons d'Or. Finalement, il n'y a que Luka Modric en 2018 qui est parvenu à se hisser dans ce palmarès. En tout cas, il faudra attendre l'année prochaine. Alors bon, il y a ceux qui pouvaient espérer l'avoir malgré tout. Karim Benzema, là, qui vient de porter le Real de Madrid vers le titre de champion d'Espagne. On pense à Robert Lewandowski, ouais. Le Polonais, 34 buts avec le Bayern de Munich. Mais c'est la Ligue des Champions qui aurait servi de juge de paix. Hein. Au mois d'août, il va y avoir tout de même, dans un format nouveau, sur des matchs secs, pas de match aller-retour, à Lisbonne, cette Ligue des Champions. Et peut-être qu'on aurait pu, c'est le seul petit regret, maintenir un Ballon d'Or, non pas au rabais, mais qui aurait décerné le meilleur joueur de la Ligue des Champions.
De ce Final 8 qui aura lieu. Comme on a dit, et un autre nom, la pacité, Sergio Ramos. Il faut défendre
Ramos,
les défenseurs, Frédéric Suto.
Défenseur, effectivement, du Real de Madrid.
Il aurait pu l'avoir cette année. Merci d'être venu, Frédéric. Et merci à Marc, qui nous a appelé du Togo. 10h30 à Paris.